Du coup, j'appelle à la barre maintenant Philippe Roisès et Carazina.
Bien, pour commencer, je voudrais juste rendre hommage rapidement à Mency, le chanteur de Angelic Upstarts, qui est décédé hier ou avant-hier, je ne sais pas très bien. Il est décédé de la Covid. C'est un groupe qui a été majeur en Grande-Bretagne toute fin des années 70, années 80, et c'était quelqu'un de fort de conviction et que je voulais saluer. Il y a donc un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Fear of a Female Planet, qui a été coécrit par Carazina et le sociologue Karim Amou, et qui revient sur une expérience à la fois musicale, culturelle et sociale, qui a été le premier groupe de punk rap féministe en France, à Lyon plus précisément, entre 1989 et 1992, dans lequel il y avait donc à la voix Cara et Virginie, qui deviendra Virginie Despentes, et à la guitare Gilles, qui faisait partie d'un groupe punk de Lyon qui s'appelait N Brigade, et d'autres acteurs, dont une partie issue, eux, de la culture hip-hop. Donc déjà, un mélange musical à l'époque qui ne se faisait pas, qui s'est fait un peu plus tard, et puis aussi une rencontre entre deux univers à la fois culturels, mais aussi d'origine et d'origine sociale et d'expériences familiales différentes, qui est assez intéressant à souligner. Donc du coup, je vais tout simplement poser quelques questions à Cara sur cette expérience particulière. Comment Virginie, Gilles et toi qui veniez du milieu punk, comment vous avez traversé cette expérience punk, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, qu'est-ce qui vous a attiré dedans, déjà pour commencer.
Alors on ne l'a pas traversé de la même façon, parce que Gilles Garrigos, donc en tant que membre d'N Brigade et en tant que créateur de Canaille, de Bébé Rose le label, de
Canaille le fanzine.
Voilà, lui, il avait une activité assez riche sur la scène punk lyonnaise. Il a été à Berlin, il a ouvert des squats, il a ouvert des salles de concert à Lyon. Il a vraiment eu une importance majeure sur la scène punk française, alors que moi, pas du tout. Et Virginie m'a fait découvrir cette scène punk dans laquelle je me suis retrouvée, parce que ça sous-entendait une liberté de penser, d'être, qui me plaisait. Après, voilà, on n'a pas du tout la même expérience par rapport à ça.
Et en dehors de Gilles, qui avait un groupe, un fanzine, un label, comme tu le soulignais, Virginie et toi, vous étiez, à part de manière notoire, suivre les Bérus à peu près partout où ils passaient. Est-ce que vous êtes investi dans des activités associatives ou de quartier ou des choses comme ça?
Alors avant Lyon, à Nancy, on traînait vraiment juste avec les punks un peu partout en France. Notre activité, honnêtement, c'était surtout de sniffer de la colle et de faire la manche. Après, on a eu un peu plus de... On a toujours écrit quand même, mais on n'en faisait pas grand-chose. Après, effectivement, à Lyon, on a un peu phagocyté un collectif qui organisait des concerts. On s'est un petit peu imposé. On a un peu squatté leur fanzine qui s'appelait Splash and Prout en réaction à Rock and Folk. Et on a fait le dernier numéro quasiment toutes les deux en interviewant ce qui nous faisait plaisir, c'est-à-dire les choristes des Bérus surtout. Parce que ce qui nous plaisait aussi beaucoup dans les Bérus, c'est que c'était un peu le seul groupe qui avait des filles et qu'on a voulu mettre en avant. Et on a commencé l'organisation de concerts. Virginie a tenu le magasin de disques avec les membres d'une brigade. Moi, mon activité, c'était plutôt punk du dimanche et intermittente de l'organisation, mais pas majeure.
quand toutes les deux vous venez de Nancy et vous êtes installés à Lyon, dans un quartier qui était un peu particulier, le quartier des Pentes et de la Croix-Rousse à Lyon, qui à l'époque était vraiment un quartier populaire, ce qu'il est bien moins aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu une géographie, une sociologie particulière. Et quand je dis géographie, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans un périmètre extrêmement petit. Et je voudrais que tu nous expliques ça.
Les Pentes de la Croix-Rousse, déjà, géographiquement, c'est vrai que C'est un quartier qui était déjà un haut lieu de la résistance, parce qu'avec les traboules dans lesquelles on peut s'engouffrer, les résistants pouvaient s'exfiltrer comme ça. Papy, qui reste un des personnages très actifs de la Croix-Rousse, qui fait de la sérigraphie, qui nous a fait les t-shirts du livre, il organise des visites guidées des hauts lieux libertaires et de la résistance sur les pentes de la Croix-Rousse. Et à cette époque-là, c'était encore pas complètement boboisé, et c'était encore un quartier où effectivement se mélangeaient les descendants, enfin des premiers habitants qui étaient des canuts, des ouvriers. C'était un milieu qui était très mixte. C'était un quartier étudiant, mais pas seulement. Enfin, il y a eu, nous, surtout, c'est là que les univers se sont confrontés, parce qu'il y avait donc Volnitsa, un bar anarchiste libertaire, et des jeunes d'origine algérienne, tous, qui ont ouvert le Koulka, qui était un pub hip-hop, un des premiers lieux vraiment dédiés à la culture hip-hop en France, et on a dû faire face aux mêmes attaques de skin sur le quartier des pentes de la Croix-Rousse. En fait, ils faisaient des ratonnades où ils cassaient à la fois de la nare et du rebeu, et c'est comme ça que les mondes se sont côtoyés, rencontrés, et ont continué après à évoluer côte à côte, puisque les gars du Koulka ont repris carrément le magasin de Disgounia Flandre après. Enfin, là, ça a continué d'avancer main dans la main, ce qui était un des seuls quartiers de France, à mon avis, où c'était aussi mélangé.
Donc c'est eux, c'est ces jeunes issus à la fois de l'immigration et de la culture hip-hop, quand vous les rencontrez, c'est eux qui vous font découvrir le rap ?
Alors on avait tous vu, en fait, Do the Right Thing, le film de Spike Lee, qui nous avait fait découvrir Public Enemy. C'était le moment des premières rencontres, des premiers tubes avec Run DMC, Aerosmith, etc. Ça commençait à se mélanger
rock
un peu.
Et rap aux États-Unis, ouais.
Et ça nous avait du coup ouvert une perspective. C'était pas notre univers, on n'est pas de là, mais du coup peut-être qu'on pouvait s'autoriser à aller par là, puisqu'il y en a qui le faisaient. On avait aussi pas trop d'égérie femmes dans le milieu punk rock, il faut bien le dire. Et là, on voyait arriver des nanas comme Queen Latifah, etc., qui nous inspiraient plus. Et du coup, nous, on s'est autorisé à mettre un peu le nez là-dedans. Et puis, on a rencontré donc les gars du Koulka, qui nous ont appris d'abord à scratcher. Sheriff nous a appris à scratcher, c'était un DJ. Hacham nous a appris à poser notre voix sur un beat. Et puis, on a travaillé avec eux. Après, Hachan a fait rentrer des potes à lui dans le groupe qui se sont révélés être les pionniers du hip-hop à Lyon et qui, du coup, nous ont apporté une vraie crédibilité hip-hop.
Alors, on va dire, pour synthétiser, enfin schématiser, tu me diras si je me trompe, le versant punk du groupe, il vient de petite classe moyenne, quoi.
Ah.
Et le versant rap vient plus de milieux plus populaires, si je...
Oui. Okay.
Du coup, est-ce que ça forge des deux côtés des états d'esprit différents et du coup, qu'est-ce qui vous rapproche en même temps ?
Je ne sais pas si on en avait tellement conscience à l'époque. C'est plutôt justement ce que Karim Amou a mis à jour 30 ans après en parlant du groupe, finalement, cette différence d'univers qui est, enfin, sociologiquement même un peu triste, parce qu'effectivement, pour le coup, c'était des jeunes d'origine algérienne qui au départ traînaient entre eux. Nous, on était quand même des filles de français moyens, blanches, étudiantes. On s'en est mieux tiré qu'eux a posteriori, effectivement. Après, sur le moment, franchement, ça nous, enfin, eux ont fait un pas vers nous. Nous, on n'a même pas eu conscience de faire un pas vers eux. Je pense que un musicien comme Mohamed Chaib qui jouait avec nous, il n'écoutait pas spécialement les textes et il n'avait pas l'impression de faire partie d'un groupe féministe. C'était pas un truc qu'il mettait en avant, qu'il revendiquait. Après, il le voyait bien quand même, qu'il suivait. Enfin. En plus, on était quand même assez atypique dans la création des morceaux, puisqu'on écrivait les textes et les musiciens se glissaient un peu sous notre flow. Ils s'adaptaient vraiment, c'est pas eux qui faisaient une rythmique ou une mélodie et qu'on devait, après nous, poser notre voix dessus. Donc, ils étaient quand même assez pragmatiques. Enfin, clairement, ils suivaient les filles, on était quand même les meneuses, quoi, et ça leur posait aucun souci. Et au niveau... Après, c'était la rencontre des deux univers, c'était quand même un choc des cultures. Il y a pas mal d'anecdotes dans le livre où je raconte quand on était dans des... On avait un réseau plutôt venant de l'alternatif. Donc, on jouait dans des festivals, dans des trucs anti-vivisection, pro-vegan, etc. Eux, ils arrivaient, il fallait passer au McDo avant pour leur acheter à manger parce qu'ils ne voulaient pas manger au buffet végétarien. Il y avait des trucs comme ça où c'est sûr que c'était un peu... on était un peu décalés. Mais... tout du long, on a vécu cette aventure ensemble, ça s'est super bien passé. Celui que tu veux, sans le son.
Le son, c'est ça.
Voilà.
58 minutes.
Ah, alors c'est pas ça, il n'y a pas...
Ça,
y a
c'est,
pas,
le, c'est, ça pas c'est juste ça. Le lignin. Ouais, ouais.
C'est l'âge, mais par exemple...
Oui. Hein ouais. Oui, si vous voulez juste voir un
si
peu des images d'archives...
C'est normal, hein,
c'est parce que c'est les clips qui sont sur YouTube.
Si, on voit bien.
Oui. C'est joli.
C'est
du do it yourself. Hein.
L'identité, c'est bon. L'identité féministe du groupe très 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 marquée. Elle est arrivée pour vous par le punk ou par d'autres biais ou par des expériences plus personnelles.
Excuse-moi, j'ai enlevé la pause. J'essaye d'enlever la pause.
Je crois que t'as mis la pause.
Ben non, ça défilait pas. Ça défilait pas. Je suis désolée, ça ne défile pas. Enfin, c'est pas grave.
Excuse-moi. Je te répète la question.
Je veux bien.
Ouais, je disais, l'identité féministe est marquée du groupe. Est-ce qu'elle est arrivée par le punk? Est-ce qu'elle est arrivée par d'autres biais? Ou est-ce qu'elle est arrivée par des expériences plus personnelles ou un mélange de tout?
C'est ce que je dis dans le livre. Moi, je suis une fille, donc féministe, ça me paraît évident. Donc, je crois que je l'ai toujours été. Que dans tout ce qu'on a écrit comme texte, que ce soit dans les groupes de punk rock qu'on a fait à Nancy, ou dans la pièce de théâtre qu'on a écrit, ou dans tous nos messages, il y avait un message féministe. Enfin, qui nous paraissait même pas clairement. Alors, on voulait pas le son, en fait. Parce que sinon, je peux plus parler. Et oui, voilà, donc de par notre vécu, en fait, on a toujours eu des revendications égalitaires, quoi. Ça nous paraissait évident de réclamer la même chose que les mecs. On voyait bien quand même que c'était plus facile. Enfin, moi, quand j'étais petite, j'aurais aimé être un homme. Honnêtement, je trouvais que c'était plus facile pour les garçons que pour les filles, la vie. Et du coup, nos textes étaient empreints de cet état d'esprit, évidemment. Après, ce qui est plutôt triste, c'est justement de voir que 30 ans après, les textes n'ont pas pris une ride et que les revendications de l'époque sont toujours autant d'actualité et que ça n'a pas tellement évolué, finalement.
Mais, je veux dire, le groupe s'étant formé en 89, aujourd'hui, on est arrivé à une mixité plus grande, une parité plus grande dans les milieux punk. Ce n'est pas tellement le cas, quand même, dans les années 80. Qu'est-ce qui, à un moment, déclenche le fait de vouloir prendre la parole? Parce que beaucoup de filles dans les années 80 étaient presque des figurantes un peu, j'ai envie
de dire. Ben oui, justement, on se demande bien pourquoi, en fait. Parce que je pense que c'est vraiment reproduire les schémas de la société et le fruit d'une éducation, d'un schéma de société. Mais il n'y avait pas vraiment d'interdit. Enfin, nous, on n'a pas été boycottés du fait qu'on était des filles. Je ne sais pas pourquoi, les filles, effectivement, étaient plus dans elles donnaient un coup de main au bar, elles faisaient les fanzines, elles faisaient l'organisation de concerts, etc. Mais elles ne se mettaient pas d'emblée dans la lumière. Et je ne sais pas pourquoi, en fait. Parce qu'effectivement, quand c'est un peu le même truc qu'on a vu avec Gangster tout à l'heure. Lui, il était attiré par ce mouvement, il avait envie d'en faire partie. Bah, ce n'est pas parce qu'il n'y en avait pas d'autres comme lui dans le milieu qu'il s'est interdit d'y aller. Nous, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de filles, mais on avait envie d'y aller, donc on y a été. Et personne ne nous a empêchés d'y aller, et personne ne nous a moins écoutés parce qu'on était des filles. On n'a pas été ségrégationnés.
Il y a un truc aussi dans le bouquin qui est assez intéressant, c'est comment vous avez, émergeant du rap américain, prise de conscience par des nouvelles générations de ce que c'est être noir aux États-Unis. C'est un discours que vous avez beaucoup plaqué sur votre propre condition en tant que femme. Tu peux en expliquer un peu plus ces mécanismes?
Et c'est ce qui nous a rapprochés aussi justement des gars du Kulka et de la bande Hachan, MC, etc. c'est que nous, en gros, on s'est senti un peu, on s'est un peu identifié au combat des Noirs américains en se disant, bah, finalement, en France, on n'est pas minoritaire, on est, mais, enfin, dans le monde, globalement, les femmes ne sont pas du tout minoritaires, mais elles sont quand même
majoritaires.
Voilà, mais les Noirs non plus, et finalement, ça reste une minorité au niveau de la représentation et de la prise de pouvoir. Et eux, en tant que jeunes maghrébins en France, s'identifiaient aussi au combat des Noirs américains en se sentant effectivement sous-évalués, sous-représentés, et comme une sous-catégorie de personnes. Donc finalement, c'est vrai qu'on s'est bien retrouvés sur ces problématiques-là grâce à ça. Les danseurs étaient presque tous noirs ou rebeux, les gars du groupe étaient tous d'origine algérienne, et nous... En tant que fille, on avait un peu les mêmes soucis d'avoir l'impression d'être des non-personnes.
On est quand même dans une société, on le voit de plus en plus, où les passerelles entre origines et cultures différentes ne sont pas énormes. Il suffit de regarder là, on est quand même blanc. Qu'est-ce que tu as l'impression que vous avez su dépasser, même au-delà du simple fait de vous retrouver ensemble? Venant chacun d'univers, de cultures et d'origines différentes, est-ce que tu as l'impression que vous avez ensemble dépassé certaines choses en se connaissant mieux, en se comprenant peut-être mieux, ou est-ce que c'est resté une aventure avec finalement les choses à dépasser, c'est resté de l'ordre un peu du superficiel, comment tu
vois ? Non, justement, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi cette question, parce que j'ai pas l'impression dans ma vie de toute façon de... Ça n'a pas été juste une aventure. J'ai fait un enfant avec un des membres du groupe qui est du coup métisse. J'ai toujours traîné avec des gens d'origine et de milieux différents. Et du coup, je n'ai pas l'impression, effectivement, que ça a été un truc exceptionnel et extraordinaire. Du coup, je ne sais pas trop comment répondre, en fait.
OK. Est-ce qu'il y a eu parfois... Non, ça n'a rien à voir. Enfin, autre chose. Est-ce qu'il y a eu aussi parfois des incompréhensions ou des difficultés à surmonter ensemble du fait d'incompréhension entre vous ?
Excuse-moi, pourquoi on n'en trouve pas plus ? Ça, c'en est un autre.
Ça, je l'ai ?
Non, c'est pas le clip. Ça, c'est pas le clip. On n'est pas sur YouTube, c'est pour ça. Excuse-moi.
Oui, je disais, est-ce que parfois il y a pu y avoir des incompréhensions entre vous ou des difficultés rencontrées à l'intérieur du groupe qui étaient parfois...
Nous, à l'intérieur du groupe, pas vraiment. Après, par exemple, avec les anars avec lesquels on traînait, et entre eux et les gens du Kulka et les gens du collectif venant du hip-hop, bah, il y a eu, par exemple, ce souci de clairement revendiquer une origine algérienne, avec le drapeau algérien dans le dos, avec un étendard que nous, on refusait en tant que peuple du monde. Et je pense que justement, effectivement, on était un peu naïfs à ce niveau-là. Pour nous, vu que ce n'était pas un problème, on ne voyait pas pourquoi ils tenaient à ce point à revendiquer leurs origines et à marquer leurs différences, alors que voilà, pour nous, c'était pas, on n'était pas nationalistes, on ne voyait pas pourquoi ils le seraient eux. Ça, des fois, du coup, ça a un peu... clashé, mais pas grave. Non, franchement, au niveau... c'est un discours qui revient souvent, le truc de milieu hip-hop machiste. Nous, on n'a jamais eu de soucis par rapport à des attitudes ou des propos, plus avec eux qu'avec les punks ou avec un autre milieu.
Pourquoi le groupe s'est arrêté ?
Alors c'est vrai que ça a été une belle histoire, mais en même temps compliqué du fait des nombreuses... c'était, on peut dire, presque plus un collectif, puisqu'il y a eu beaucoup de musiciens différents qui sont passés, qui sont intervenus, les danseurs, il y a eu beaucoup de monde. C'était compliqué, je pense, à organiser un peu comme une colo de jeunes fous. Et Virginie tirait beaucoup tout ça quand même, et elle organisait beaucoup le truc. À un moment, son pseudo, c'était... Mothership, machin, et c'est vrai que c'était un peu la maman de tout le monde. Et il y a eu un moment où je crois qu'elle en a eu marre de tirer, en fait, où À la fin, on répétait carrément dans un truc où on payait à l'heure, où on arrivait tous plus en retard les uns que les autres, où je crois même que c'était elle qui payait les répètes. Enfin, en tout cas, clairement, c'est elle qui trouvait des dates de concert, c'est elle qui envoyait la démo, c'est elle qui se bougeait vraiment plus que nous autres. Moi, c'était l'époque où j'avais déjà commencé à bosser comme instit, où le père de mon fils, qui n'était pas encore le père de mon fils, mais avec qui j'étais déjà en couple, était franchement en train de basculer dans la folie. Donc c'était compliqué, j'avais plein d'autres trucs à gérer. Elle le dit dans le livre, c'était vraiment ce qu'elle avait de plus important dans sa vie à ce moment-là. Elle mettait beaucoup d'énergie là-dedans, et il y a un moment où elle en a eu marre de tirer toute seule. Et donc elle a écrit « Baise-moi », qui a eu le succès qu'on a connu, qu'on sait, et du coup elle a lâché. Et quand elle a lâché, ça s'est arrêté. Et je pense qu'on avait tous les boules que ça s'arrête, mais on n'avait pas vu venir la fin. On pensait qu'elle tirerait toujours. Enfin, on ne se rendait pas compte que c'était elle qui tirait à ce point.
Combien de concerts vous avez fait à peu près ?
Alors, c'est Karim Amou, hein, les références. ça doit être marqué dans le livre.
De la dizaine ou de la trentaine.
Oh, bah non, quand même plus de l'ordre de la trentaine.
Ouais. Ouais. Donc, plus dans les milieux punk.
Carrément, On n'a pas eu tellement de représentativité du tout, même dans le milieu hip-hop. Déjà parce qu'il n'existait pas tellement au niveau hors parisien. Mm-hmm. En fait, on a fait la première partie d'NTM à Lyon, quoi, mais en dehors des rappeurs qui venaient à Lyon, on n'avait pas de contact tellement avec le monde hip-hop. C'est beaucoup à Paris. Et on n'avait pas de réseau, en fait. Ceux qui en avaient... et encore, c'est pas des gars qui voulaient spécialement être dans la lumière, en fait. Donc, ils n'étaient pas spécialement dans des connexions, dans des collectifs. Donc, c'est l'histoire qui a prouvé qu'ils étaient là les premiers et qu'ils n'avaient jamais lâché. Mais à cette époque-là, ils n'étaient pas tellement en recherche de... Donc, dans la mesure où c'est plus Virginie, elle était en lien, elle, avec la manageuse de Condense, qui était un groupe de hardcore lyonnais, avec la manageuse de Salle des Fêtes, qui était aussi un groupe de punk lyonnais. Et du coup, elles échangeaient leur réseau, mais c'était toujours dans le milieu alternatif, quoi. C'était toujours dans des trucs de punk rock, en fait. C'était rarement dans des milieux hip-hop, donc on est toujours un peu vus comme des extraterrestres. Puis il n'y avait pas tellement de groupes de fusion non plus à l'époque. Mm-hmm. Et nous, on mélangeait vraiment les genres, donc on ne savait pas où nous ranger. Et les gens aiment bien pouvoir ranger les genres dans une case, donc on est un peu passé à travers à cause de
ça. Est-ce que tu as une idée pourquoi, et ça sera ma dernière question, pourquoi c'est un groupe qui, dans la forme musicale et même dans le discours, est extrêmement précurseur, et l'histoire n'a pas retenu le nom de Stratroyer. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ?
Je me le demande encore. Pourquoi je ne vends pas des millions de livres et qu'on n'a pas vendu des millions d'albums ? Je vous le conseille. Mais non, sérieusement, je pense qu'il y avait dans toutes les villes des petits groupes qui existaient et qu'on a appartenu parce qu'effectivement, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas autant de passerelles entre les gens, il n'y avait pas tellement moyen en fait, de se faire connaître quand on était effectivement hors des gros médias, etc. Et quand on n'était pas à Paris et quand... Et je suis plutôt super contente que Karim Mamou ait déterré ce groupe, mais je n'y croyais pas, en fait. Ouais,
je vais juste préciser pour conclure. Le livre est extrêmement documenté. Il retrace aussi le parcours des gens, mais aussi le contexte culturel, historique et social de ces quelques années. Il est extrêmement documenté de beaucoup de photos, de beaucoup de textes du groupe et de différents flyers. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il est très touffu. Il est éventuellement
un morceau.
Ouais, vous pouvez le consulter ou l'acheter. Le disque est là aussi. Surtout, honnêtement, il y a une qualité d'écriture de texte aussi bien dans la forme que le fond qui est assez remarquable. Voilà.
On va finir avec un peu de son quand même parce qu'on parle de musique depuis tout à l'heure et il n'y a pas de son. La suite en livre et puis la suite sur YouTube.
Il y a le livre, il y a le disque. Je vous invite à lire les textes qui sont dans le livre. C'est vrai qu'il est riche en illustrations. J'ai gardé tous les flyers de l'époque. Moi, Gilles Garrigo, c'était un super photographe. Donc, les gars du groupe étaient des super graffeurs. Donc, il y a des belles illustrations. Et Nada a fait un super beau boulot de reproduction, de mise en page, etc.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation.
En fait, on est un petit peu en retard sur le programme et la technique a vraiment besoin d'intervenir. Donc, on va laisser la parole à Alexandre Geffen. Alors Alexandre Geffen, on lui fait, enfin, je te remercie beaucoup d'être venu parce qu'il a un emploi du temps assez chargé dans sa vie. Et en fait, c'est bref, c'est, il est directeur adjoint scientifique, c'est comme ça qu'on dit, hein, au CNRS. Donc il est dans ma section, en fait, il dirige la section à laquelle j'appartiens. Et il va venir dire quelques petits mots de conclusion. Et après, on prendra les questions à côté. Non, mais on discutera pendant que la technique s'installe pour le bœuf, tranquillement à côté.
En fait, merci. Non, je voulais juste vous saluer. Je n'ai pas pu assister à tout le colloque. J'étais un petit peu pris par d'immenses trucs. Ouais, non, je voulais juste dire à quel point, à la fois à titre personnel, parce qu'il y a toujours un effet nostalgie assez direct pour moi, mais aussi en termes intellectuels. Hein, franchement, l'histoire culturelle, c'est une dimension très, très importante pour nous. C'est en train de devenir une de nos priorités scientifiques à l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. La musicologie, lorsque elle sort de ses périmètres traditionnels, qu'elle rencontre l'histoire des mobilisations, l'histoire des mouvements culturels, est absolument un axe qu'on a envie de soutenir. Et c'est vrai qu'on a depuis plusieurs années, depuis longtemps, soutenu hein, votre projet, Solveig et Luc, et on continuera à le faire. Ça compte vraiment pour nous. C'est à la fois un angle très très original, même dans le paysage international des recherches, quelque chose qui est très très fédérateur, et puis aussi quelque chose qui nous fait redécouvrir quand même un domaine qui en France avait été un petit peu oublié, qui est cette histoire de la musique récente et de tous ces sons qui ont marqué notre jeunesse. Donc vraiment merci à vous de mener ce programme là. Sachez qu'on sera là pour essayer de vous guider, de vous épauler, de vous accompagner. Et puis ben voilà, merci de nous ramener à ce qui a été quand même très 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 important dans notre constitution et qui notre constitution d'individu, hein, vraiment notre rapport au social, au politique, à la musique. Hein, c'est comme ça que je suis né à beaucoup de choses avec le punk. Et donc vraiment merci à vous. Ah.